Il y a dans 1 Corinthiens 12, 1, si vous l'avez, il est dit, 1 Corinthiens 12, 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et je crois que c'est très important. L'ignorance entraîne à l'égarement. Donc on a besoin d'être enseigné, besoin de comprendre. Voilà pourquoi je vais essayer de vous amener à vivre les choses. Un exemple, il y en a qui disent que les dons ont cessé au moment où les actes sont finis. Mais comme je disais tout à l'heure, les actes ne sont pas encore terminés. Et ça, c'est une aberration de dire « c'est fini, il n'y a plus de ministère, il n'y a plus de dons, il n'y a plus rien, il faut attendre ». Mais non, ce qui est parfait n'est pas encore fini, là, on n'est pas encore atteint. Il faut que Christ revienne. Et je crois que, ouais, il nous faut savoir ça. Et il y en a aussi qui ont reçu les dons, mais qui l'utilisent avec un esprit non purifié. Par exemple, l'idolâtrie. Par exemple, les charismatiques, catholiques charismatiques, j'ai rien contre eux, j'en ai vu, et des gens qui avaient réellement reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui mettent en doute, je vous assure. Mais comme ils n'ont pas été délivrés de leur idolâtrie, c'est-à-dire l'esprit marial, eh bien, quand ils prophétisent, ça fait comme la source n'est pas bonne. Et donc, il y a des erreurs extraordinaires qui se passent. Je vous raconte ça parce que ça devient donc de l'occultisme ou de la divination après. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas remplis de l'esprit. Comprenez ce que je veux dire. Je vais vous expliquer. J'étais dans l'Aveyron. Vous connaissez ce département. C'est assez dans les terres profondes. Et puis, nous avons ouvert une église à Millau aussi. J'avais ouvert il y a un petit moment maintenant. Et puis, quand je suis allé là-bas avec d'autres ministères, il y a des catholiques qui sont venus. Puis ils étaient très contents de venir. Ils disent « Ah, tout ce que vous dites, c'est formidable. On veut le vivre. Venez chez nous. » Et c'était, on appelle ça le berger. Il dit « Voilà, venez chez nous, il faut enseigner. » J'ai dit « Écoutez, non, on est fort pris, on ne peut pas. » Puis après, en priant, Dieu me dit « Il faut que tu y ailles. » Donc j'y suis allé avec les autres ministères. Puis en arrivant là, il y avait la grande statue de Marie avec plein de bougies autour. Et puis on est arrivé un peu en retard, ils priaient tous en langue autour. Et puis moi, ça m'a fait un choc, j'ai dit « c'est pas possible, c'est quoi ?» Et puis d'un seul coup, l'Esprit de Dieu dit « regarde ». Et du fait d'être arrivé sans même ne rien dire, la puissance de l'Esprit est descendue et ils ont tous vécu des délivrances, les esprits mariales qui étaient en eux, qui étaient de la divination, de l'occultisme. Donc ils ont bien reçu l'Esprit de Dieu, mais en même temps, tout était faussé à cause de ce qui n'avait pas été changé dans leur vie. Donc, à ces moments-là, j'ai commencé à prier, et le berger lui-même est parti en forme de serpent sur le sol. Les autres qui étaient là, ils disaient « c'est pas possible, pas lui, et si !» Et tous ont vécu des délivrances après. Après, ils ont mis la statue par terre, ils ont dit « oh, on a compris, maintenant !» Et je crois que Dieu veut vraiment... Il faut enseigner les gens, il faut leur expliquer les choses. Hein. Par contre, je suis allé dans une église catholique du côté de Valbonne, là-bas dans le sud-est, et là, une onction de Dieu, je n'ai jamais vu autant. Il y a presque 2000 personnes dans cette église catholique. Ils font le cours alpha, il y a plus de 400 personnes à chaque cours. J'ai vu le prêtre, bon maintenant il a été mis dehors, mais j'ai vu le prêtre qui lui était réellement converti à Christ et il amenait les gens à Jésus. Il nous louait une salle en bas et puis il a écouté, tout est enregistré par les films, on est filmé, on est espionné, je ne savais pas. Et il est arrivé et il dit « tout ce que vous dites, je le vis ». Et je dis « mais comment vous savez, vous n'étiez pas là ?» Mais les murs parlent. On fait des caméras. Et puis, il m'a montré ça. Et puis, pour finir, après, il m'a fait aller dans son église au-dessus, à une réunion officielle. Et là, c'était une telle bénédiction. Des paroles prophétiques, des gens qui ont été transformés, changés. Je crois qu'eux ont compris. Il n'y avait plus rien dans cette église au niveau des statues. Ce n'est pas la statue qui est la pierre. Ce n'est pas ça qui est dangereux. C'est ce que notre cœur est attaché. Et c'est ça que Dieu veut enlever. Donc, voilà. Quand notre esprit n'est pas purifié, c'est de l'idolâtrie. Et là, l'idolâtrie, c'est comme de l'occultisme. Il y a confusion, divination. Donc, il faut purifier. Et on a besoin d'être enseigné aussi pour recevoir les dons. C'est souvent cela, mais il y a aussi l'expérience. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7, il est dit qu'il ne vous manque aucun don. Ça veut dire que l'Église, Dieu a donné les dons. On devrait utiliser les dons à chaque fois qu'on se rassemble. À chaque fois qu'on se retrouve, on devrait voir tous les dons se manifester. On devrait voir des guérisons. On devrait voir des paroles de connaissance. On devrait voir plein de choses. Chacun devrait pouvoir expérimenter ou exercer plutôt ce que Dieu lui a donné. À chaque fois que vous vous retrouvez, voilà, y a-t-il parmi vous tel don ? Paul en parle, n'est-ce pas ? Et pourtant, on ne le vit pas. Quand on se rassemble, ça s'arrête là, on est bien, loué le Seigneur, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que Dieu veut que l'on vive ? Donc, je crois que Dieu veut nous apprendre. Parole dit que tous prophétisent. Chacun devrait pouvoir prophétiser l'un après l'autre. Je fais une expérience une fois dans une église, et c'était quand j'étais à l'école biblique. Et puis, j'avais déjà toute cette sensibilité au Saint-Esprit, j'avais déjà expérimenté. Et puis, j'ai eu cette idée, je dis, mais si je rassemblais tous ceux qui ont cette sensibilité prophétique à côté de moi, sur la même rangée, c'est une expérience, hein. Puis on s'est retrouvés tous ensemble, et puis, Seigneur, montre-moi que tous prophétisent. Écoutez, d'un seul coup, le premier commence à prophétiser et toute la rangée les uns après les autres. Puis après, ça recommençait. C'était une réunion extraordinaire. Tous se sont mis à prophétiser dans la rangée de ceux que j'avais choisis. Mais Dieu ne dit pas juste cela, il dit que toute l'Église. Donc, on a besoin de cela. C'est important. Et je crois que dans Acte 1:8, il est dit « Les dons sont la manifestation de la dynamique du Saint-Esprit ». Je crois que c'est comme ça que l'Église grandit, comme ça qu'elle peut être vécue par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 9, 31. Et il dit qu'il ne vous manque au milieu de vous aucun don. Et il y a une des choses aussi qui est importante, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 19 et 20, qu'il dit que l'Église s'accroît, elle s'accroît si on n'éteint pas le Saint-Esprit. Et si on ne méprise pas les prophéties, alors comment peut-il être, puisqu'il y a de tout qui est dit ? Et j'avais un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rick Joyner, c'est un ministère prophétique, et il a dit une chose qui m'a plu. Il a dit, dans une étable à vaches, il y a les vaches qui donnent du bon lait, mais aussi elles font caca. Et ce n'est pas parce qu'elles font caca qu'on les met à la poubelle, les vaches. Non, on nettoie le caca. Mais on garde pour le bon lait. Mais c'est la même chose dans une église. Il y a de tout, mais il faut le gérer. Apprendre à le gérer. Apprendre à reprendre les gens. Apprendre à leur dire quand c'est juste ou pas juste. Souvent, on a une parole prophétique, on ne sait pas si on a dit juste ou pas juste. On n'ose pas reprendre devant les autres. Mais on est des frères et sœurs, on devrait apprendre à se laisser reprendre aussi parler. Et ça nous fait grandir. Ce n'est pas parce qu'on s'est trompé une fois qu'on n'est plus valable. Je crois que Dieu veut nous apprendre à passer au-delà. Je crois qu'on peut faire des erreurs. Je vais raconter une erreur que j'ai faite. Je l'aurais promis que je vais la raconter, je vais la raconter. Ça m'arrive aussi, je suis un être humain, un vase de terre. Un jour, il y avait un rassemblement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. M'ont invité, puis les gens venaient. Donc c'était super, quoi. Et j'enseignais. Puis d'un seul coup, je prophétise sur des personnes, et j'ai prophétisé sur une personne, donc tout ce que j'ai prophétisé, c'était super, mais à une personne, c'était un couple. Lui, il était un rugbyman, vous voyez, vraiment, et puis il y avait sa femme à côté, et je prophétise sur sa femme, et sa femme se met à pleurer. Ça aurait pu être que ça soit la vérité, ça arrive. Puis, je continue. Puis, j'entends Dieu qui me dit, « Hervé, tu t'es planté. » Je dis, « Non, Seigneur. Hervé, tu t'es planté. Il faut que tu demandes pardon à tout le monde. » Parce que, quand tu es mis à une certaine hauteur, aussi, la responsabilité doit être faite devant les autres. C'est bien ce que la Bible dit, n'est-ce pas ? Alors, je vais voir les responsables, c'est la pause du midi, et je leur dis, écoutez, je me suis trompé là, j'ai fait une erreur, il faut que je le dise devant tout le monde et que je demande pardon. Ils m'ont dit, ne fais jamais ça, tout le monde va partir. Comme quoi. Et j'ai dit, si, je ne peux pas continuer sinon. Fais comme tu veux, c'est toi qui en es responsable. Ah, puis je dis oui devant Dieu, ça c'est vrai. Alors, la réunion d'après-midi commence et je dis, voilà, ce matin je me suis trompé pour telle personne. Et elle n'était pas là, il y avait son mari. Elle était partie s'occuper des enfants. Et je commence à dire devant son mari, voilà, j'ai dit ça et c'est une erreur. Je demande pardon à ta femme qui n'est pas là, à toi, mais aussi à toute l'église de ce que j'ai fait. Parce que ce n'était pas de Dieu. Mes sentiments qui ont parlé plus que la pensée de Dieu. Alors, un grand silence. Ah, tout ce que j'avais dit auparavant était juste. Juste cette erreur-là. Et puis, une fois que j'ai fait ça, les responsables, ils étaient mal. Et après, la puissance de Dieu est venue. Je me suis repenti. Vous savez, dans le mot repentance, il y a une des choses qu'il faut que vous sachiez. Dans le mot repentance, c'est regretter, revenir à ce qu'on a fait comme erreur. Seigneur, je te demande pardon. Mais la plupart des chrétiens restent là. Mais alors on regrette toute notre vie, puis on ne reprend jamais notre position. Mais dans le mot repentance, il y a revenir et le mot pentance qui veut dire élever. Ça veut dire que je demande pardon et je reprends ma place de fils de Dieu, héritier et co-héritier. Ça veut dire que je ne reste pas sous l'accablement, c'est dur le français, c'est comme ça on dit, mais je reprends ma position de fils. Et je crois que, oui, on peut faire des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et au moment où tu as fait des erreurs, tu demandes pardon à Dieu, il dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés. Et je crois que Dieu veut nous apprendre quelque chose là. Je crois que c'est important. Donc même si tu te trompes, il faut redresser la chose et puis reprendre ta position. C'est-à-dire qu'aussitôt, tu dois continuer. Donc après, j'ai commencé à vivre et je n'ai jamais vu autant de guérisons que cet après-midi-là. Des miracles et des guérisons dans la salle. Je n'avais même rien à dire. Je regardais les gens étaient guéris. La puissance de Dieu, parce que Dieu dit... Tu as reconnu devant les autres. Moi, maintenant, je vais te montrer que tu es réellement mon fils. Et que ton ministère est toujours là, quoi. Et je crois que Dieu veut nous apprendre quelque chose. On doit apprendre, ne pas négliger, ne pas rejeter les choses, mais redresser les choses. Apprendre à remettre les choses dans l'ordre. C'est ça, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire, nous sommes une église prophétique puisqu'on annonce Christ. Donc, oui, on peut analyser tout si c'est juste ou pas juste, quoi. Mais on ne doit pas analyser la personne, c'est ce qui a été dit. Donc on n'a aucune condamnation à mettre sur qui que ce soit. Tout le monde peut se tromper. Mais on analyse la parole. Donc ça, c'est très important dans l'Église. Et moi, j'encourage à cela. Je vous donne un exemple. J'ai enseigné sur le prophétique une fois. Et puis... Voilà, il y avait tous ces gens qui étaient là, c'était en Alsace. Et puis, Dieu me montre deux personnes dans l'église et dit, tu vas les faire prophétiser. Elles avaient jamais prophétisé, une en avait prophétisé, l'autre n'avait jamais prophétisé. Je ne les connaissais ni l'une ni l'autre. Il y en a une, c'était une Algérienne, arabe donc, et puis l'autre, je ne savais pas, c'était la femme du pasteur. Je n'étais pas au courant que c'était la femme du pasteur. Puis, je l'ai choisi tous les deux, et la femme du pasteur, elle dit, j'ai jamais prophétisé de ma vie. Je dis, Dieu m'a montré qu'il faut que tu fasses, alors tu vas le faire. Écoutez, la femme, elle s'est mise à prophétiser, elle n'en revenait pas, et quand l'onction prophétique est là, ça a coulé, et c'était tellement formidable. Il y a des valeurs quand on prophétise, je vais vous les expliquer après, comment ça doit être. Cette femme a tout dit dans la paix, dans l'amour, avec tout ce qui était pour amener les choses comme il faut. Je ne dis pas de réponse, je ne corrige pas. Le but, c'était de corriger les gens tout de suite après, en accord avec le responsable. Puis, l'autre femme, j'ai dit, vas-y, elle prophétise, Mais alors, oui, toi, au nom de Jésus, tu as tes impies. Alors, elle commence à être très dure. Puis je la laisse aller jusqu'au bout. Le pasteur était mal. En fait, il l'empêchait de prophétiser depuis plusieurs années parce qu'elle était très dure quand elle prophétisait. Et moi, je la laissais et il était à sa place. Je le regardais mal. Il dit, va-t-il réagir ? J'ai tout laissé dire jusqu'au bout. Puis après, je dis, maintenant, on va corriger les deux. Et j'ai commencé à corriger la femme du pasteur. J'ai dit, ça, c'est vraiment... La parole était précise. En même temps, il y avait l'amour. Il y avait toutes les choses et les conditions que Dieu voulait. Donc, c'est bon. Puis après, je demande à l'autre dame. J'ai dit, voilà, toi, ta parole était juste. Mais alors, très juste. Mais comme tu l'as dit, sans amour, ça ne vaut rien, poubelle. Devant tout le monde. Elle était... C'est une femme d'un caractère très fort. Elle n'était pas contente du tout. Puis elle part à sa place et le pasteur, il fait ouf. Il était soulagé. Et en fait, je ne l'ai pas incendié. Je lui ai dit que sa parole n'était pas bonne parce qu'il n'y avait pas l'amour au milieu de sa parole. Et une parole prophétique doit être dite dans l'amour. Et donc, après ça, elle est revenue me voir à la pause puis elle m'a dit, je veux vous demander pardon. Parce que c'est vrai, Dieu m'a parlé, j'ai vraiment mal fait les choses. Je dis, mais ta parole était juste. Mais tu te rends compte, quand ça arrive au cœur de la personne le rejette, et ça ne pénètre pas son cœur, parce qu'il n'y a pas l'amour. Donc c'est important que tu puisses avoir l'amour. Donc vous voyez, on doit apprendre à gérer les choses dans une église. Je crois que pour apprendre à gérer, quand on a une prophétie, qu'on se retrouve tous ensemble dans l'église et que j'ai dit tous prophétisent, c'est important, si on n'a pas l'expérience, de pouvoir soumettre toutes nos paroles aux responsables de l'église. Et c'est comme ça que j'ai appris pendant beaucoup d'années où le pasteur me réveillait à ma place tout le temps. Quand vous le soumettez soit à celui qui préside la réunion, soit au responsable spirituel, eh bien, c'est plus vous qui êtes responsable. Vous l'avez soumis. S'il dit non, c'est son jugement. Vous, vous devez accepter ce jugement et retourner à votre place. Parce que c'est important. Je vous explique pourquoi. Mettons, c'est un petit peu comme ça, c'est mieux. Si vous êtes sur la route et que des gendarmes vous font signe de vous arrêter, vous mettre sur le côté, est-ce que vous allez continuer ou vous arrêter ? Il faut mieux s'arrêter. Donc, il faut mieux. Mais pourquoi il faut mieux ? C'est un homme comme un autre. Enlevez-lui son costume, c'est un homme comme un autre. Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre ? La différence, c'est qu'il est soumis à une autorité au-dessus de lui qui lui donne le pouvoir de pouvoir verbaliser, de t'arrêter. Et celui qui est au-dessus de lui est soumis au ministre et le ministre est soumis au président. Et c'est cette soumission qui nous donne de l'autorité. Moi, je viens chez vous, je n'ai aucun droit de dominer sur votre vie. Si vous voyez un prophète qui commence à dominer, vous le foutez dehors. Je l'ai déjà fait. C'est juste parce que ceux qui sont responsables, c'est ceux que Dieu a établis dans l'Église comme anciens ou responsables pour essayer de vous amener à une maturité. Mais ce n'est pas le ministère. Le ministère, il doit apporter ce qu'il est pour faire grandir l'Église dans son appel et dans ce qu'il a reçu. Mais quand moi, je donne une parole, toutes mes paroles sont enregistrées. J'ai demandé tout à l'heure à ce qu'il le fasse pour qu'il y ait une trace, que vous puissiez la voir, puis que ça soit examiné aussi par les responsables. Souvent, nos responsables nous connaissent mieux que nous-mêmes. Alors, quand il y a la parole, ils disent « Oh, quand même !» Donc, moi-même qui est ministère, je suis soumis aux autorités. C'est eux qui m'ont invité, mais je ne viens pas en conquérant parce que j'ai reçu aucun mandat sur cette église. Le seul mandat, c'est d'apporter mon ministère pour aider, mais pas de direction. Donc, on doit apprendre. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, on apprend au fur et à mesure. Donc, quand vous avez une parole prophétique, allez la soumettre. Qu'importe ce qui est dit ou pas dit. Ce qu'il faut, c'est la soumettre. Si vous dites oui, plus tard. Et des fois, on reçoit quelque chose et ce n'est pas le temps de le donner. Donc, il faut apprendre à gérer ce temps. Donc, Dieu a permis qu'il y ait des gens qui président ou qui dirigent pour justement, ils gèrent ces temps. Dieu parle continuellement. continuellement. Mais on doit apprendre à savoir le dire au bon moment. Si c'est la louange, super louange, tout le monde en train d'adorer, puis qu'il y en a un qui commence à prophétiser, ça fait tout retombe. C'est vrai ou c'est faux? Ça veut dire que même si c'est là, à moins que ce soit une parole pour une direction pour la louange, sinon, il ne faut pas. Vous attendez le temps, c'est jamais perdu. Il y en a qui disent, oui, mais je l'ai là. Mais oui, mais tu dois maîtriser ça. Et tu dois apprendre à le soumettre à Dieu, puis te retenir pour le dire au moment où il le faut, quoi. Parce que sinon, ça n'aura aucun effet. Et combien de fois des gens ont eu des paroles et ça n'a eu aucun effet? Parce que ce n'était pas le bon moment. Et des fois, on va absolument le dire. Moi, je me rappelle, il y a longtemps de ça, hein, j'étais tout jeune converti, il y avait un homme à une heure précise, il prophétisait. À chaque fois. Il était 10h15, on allait voir la prophétie. Et moi, j'étais nouveau, j'avais observé ça. Je lui dis, regarde bien, là, il va commencer. Hop, ainsi parle l'Éternel. Il faisait ça. Moi qui suis là-haut dans le ciel, vous qui êtes en bas sur la terre. Oh purée, là, rien que de dire tout ça, plus personne. On n'avait plus envie de vivre, quoi. On était mort, quoi. C'est un grand Dieu, puer fruitard. Et puis, moi je dis, Seigneur, c'est pas possible. Le responsable ne dit jamais rien, il le laisse faire tout le temps. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, oui, l'esprit des prophètes est sommé aux prophètes. Donc, à l'Église, on ne doit pas laisser dire une chose pareille. Et Dieu me dit, Hervé, tu n'as pas d'autorité, mais juste une minute avant qu'il commence, tu vas juste mettre ta main sur sa tête, puis après tu t'en vas. J'ai fait ça, coupé, plus jamais il a prophétisé. Et j'ai rien dit, je ne l'ai même pas reproché, j'ai rien fait. Plus rien. Le pasteur, il m'a vu aller derrière, juste prier pour lui comme ça. Et je crois que Dieu veut nous apprendre. Plus tu es soumis, plus tu as d'autorité. Et moi, je ne suis pas devenu ministère prophétique d'un seul coup, mais c'est à cause de ce que j'ai soumis à chaque fois ma vie à d'autres. Et si on apprend cela, alors on vit dans la bénédiction. C'est vrai que c'est contraignant, on n'aime pas trop, on voudrait pouvoir faire de nous-mêmes, mais c'est comme ça que ça marche avec Dieu. La loi spirituelle, c'est celle-là. Et c'est Christ qui est notre Seigneur à tous, c'est vrai. Il y en a qui disent, je suis soumis à Jésus. Dieu, oui, c'est facile, il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là quelque part. En fait, on dit, il n'a pas de... Mais Dieu a établi dans l'Église, premièrement, et puis ainsi de suite. Donc, on apprend comme cela. Donc, je crois que Dieu veut nous apprendre ça. Jésus lui-même a appris par la soumission à son Père. Et je crois qu'il avait des résultats parce qu'il ne faisait que ce que son Père lui disait de faire. Et lui-même est un exemple. Si on lit la Bible, on comprend ce truc. C'est la loi. Lui-même était soumis à son Père. Et quand il était le soir, il savait en priant que le lendemain, il y aurait tout ça. Et normalement, on devrait apprendre à ça. Être à l'écouter est tellement en communion qu'on saura que demain, il va y avoir ça. Ça va venir, hein, vous allez voir. Je crois que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et pourquoi on soumet? C'est parce qu'on aime, c'est pas par contrainte. C'est parce que j'aime Jésus que je lui obéis. Mais c'est pas parce qu'il... Et c'est pas parce que les responsables... Non, c'est parce que j'aime l'Église. Alors je suis soumis parce que Dieu a établi. Et ça c'est important. Puis petit à petit, tu vas t'apercevoir que tu vas grandir. Tu sais, moi j'aime dans la parole, c'est par exemple... C'est Philippe. Philippe, dans la Bible, il a servi aux tables, puis après, il est devenu un évangéliste extraordinaire, puis après, il est devenu un apôtre. C'est jamais figé tout. Mais à chaque fois, il était soumis. Et vous voyez ça dans beaucoup d'endroits. Hein. Et tous les grands hommes ont été soumis. C'est important. Samuel a été soumis à Élie parce qu'il écoutait. Et il soumettait, et il est allé voir jusqu'au bout alors que Dieu lui avait parlé. Tu te rends compte? Moi, je trouve ça, c'est des exemples. La Bible en est remplie, donc c'est la loi spirituelle. Comme la loi du monde, moi, je vois mal, quand tu travailles dans une entreprise, si le patron te dit ça et que tu veux faire à ta façon, mais tu resteras pas longtemps. Hein. Oups, dehors. écoute, qui c'est le patron là? Je crois qu'on doit apprendre ça. Mais toute la vie, elle est faite comme ça. Pourquoi qu'avec le Seigneur, ça ne marcherait pas? C'est exactement la même chose. Je crois que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Donc, j'ai parlé de la louange. Donc, je disais tout à l'heure, on ne coupe pas la louange. Ça va être l'heure, peut-être? Oui, mince. Ça va? Encore 5 minutes? Donc, voilà. Ils ont des femmes et des enfants. Voilà. Je crois que le Seigneur veut nous apprendre à être humbles dans notre cœur, à être des gens qui ne font pas pour se faire valoir, mais juste parce que Dieu leur dit. On n'a rien à prouver. Souvent, on réagit parce qu'on veut prouver qu'on a reçu. C'est Dieu qui est. Et Dieu le fait comme il veut, quand il veut. Alors, qu'est-ce que je peux prouver? Je ne dépends que de lui, quoi. Donc, ça doit être très important. L'orgueil, vous savez, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Et souvent, dans le niveau prophétique ou dans d'autres dons qu'on a reçus, les gens pensent qu'ils sont devenus plus que les autres. Non, on est tous à la même hauteur. On fait partie d'un corps. Chacun a une place différente, mais tous sont importants. Et je crois que c'est d'apprendre à garder notre place et à être là où on doit être et remplir la tâche que Dieu nous a demandée. Si tout le monde pouvait faire ça, on vivrait des choses formidables, n'est-ce pas? Donc, voilà, je grille beaucoup de choses. Alors, la prophétie, je disais tout à l'heure, c'est dans 1 Corinthiens 14:3, elle dit ça. Elle édifie, ça veut dire construire la maison. Une parole prophétique édifie. Quand une parole est donnée, ça édifie les autres, d'accord? La deuxième chose, ça exhorter, être attiré plus près. Quand il y a une parole prophétique, on est attiré plus près du tabernacle, plus près du paraclet, plus près de Dieu. On doit sentir ça. On dit, oh, là, il y a la présence de Dieu. On sent, il y a quelque chose qui se passe. Puis, la troisième des choses, ça console. Parler avec affection. On ne parle pas pour détruire, mais par amour. Une parole prophétique, même quand c'est des choses dures, ça doit être dit par amour. C'est très important. J'étais à l'île de la Réunion là, ces derniers temps, et j'étais dans une église qui m'ont invité, ils voulaient absolument que j'y aille. Et après que je suis passé, ils devaient se dire, on a tout à réviser dans l'église, parce qu'il y a eu des paroles tellement fortes, et je ne savais pas à qui je donnais, c'était des responsables et d'autres, comment Dieu les reprenait, et comment Dieu voulait les ramener dans la bonne voie, et même les gens, ils disaient même les péchés qui ont été faits, et qui empêchaient la bénédiction de Dieu. On veut qu'un ministère vienne, tant pis. Mais je crois que c'est important. Mais quand c'est dit avec amour, quand ça édifie, ça exhorte et ça console, il faut absolument que ces trois choses soient là dans une prophétie ou une parole qui est donnée de la part de quelqu'un. Je crois que c'est important. Ça, c'est l'état d'esprit de la prophétie. La prophétie convainc aussi le non-croyant. Et ça, c'est des expériences que j'ai vécues extraordinaires. Quand vous avez des gens qui ne croient pas en Dieu, puis que vous avez une parole pour eux dans la rue, partout où vous êtes, c'est incroyable. Je vous en raconte une. J'allais avec ma femme acheter une machine à laver, il y a plusieurs années en arrière. Alors, à cette époque, on achète et puis après, il faut voir la personne qui te vend pour faire, la garantie. Donc, il faut aller remplir tout. Maintenant, tout est fait avec la feuille de caisse. On n'a plus tout ça à faire. Mais à cette époque, voilà. Alors, on arrive devant elle et puis on s'assit et elle commence à demander plein de choses. Et d'un seul coup, je me mets à prophétiser sur elle, sur sa vie. Je lui dis, voilà, ta vie, elle est comme ça. Ton mari te trompe, tout ce qui te passe. La femme, en larmes dans le magasin, elle a mouillé tout le papier qu'elle devait remplir. Et puis, on n'a jamais rempli le papier, quoi. Je dis, là, on ne va pas y arriver. Ma femme me dit, quand même, on achète une machine. Je dis, oui. Mais elle avait besoin tout de suite, quoi. Cette femme était convaincue que Dieu lui avait parlé. Parce qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait savoir ça. Je ne pouvais pas le savoir. Personne ne pouvait deviner. Je crois que c'est ça aussi. Dieu veut nous apprendre à convaincre le non-croyant, de lui montrer que ton Dieu est plus grand que celui du monde, quoi. Et il connaît toutes choses. C'est formidable. Il n'y a pas Voilà, ça marche, ça continue. Je ne sais plus où j'en étais. Voilà, donc il convainc nos croyants. Ça veut dire que la prophétie, elle n'est pas juste pour non plus ici, mais elle est aussi pour les gens du dehors, quoi. C'est-à-dire, comment croiront-ils s'il n'y a pas une démonstration de la puissance de Dieu, quoi. Et vous avez reçu cette puissance. Donc, vous pouvez aller dans la rue et recevoir des choses. Oui, je disais, j'étais dans l'avion, c'était ça que j'étais arrêté, ça me revient. J'ai encore dans un avion, et puis je rencontre un ami chrétien, c'était pas prévu qu'on se rencontre dans cet avion-là, on allait dans la même direction, il dit « Oh, Hervé, t'es là !» Puis je dis « Oh, tu es là !» Et puis on discute, puis lui, il était dans les places devant, il avait des bonnes places, et puis moi, j'étais plus vers le milieu encore une fois, et puis j'étais assis à côté d'une personne, et puis la personne ne me connaissait pas, mais parce qu'elle me regarde, elle dit, mais qui vous êtes ? Je suis Hervé. Elle dit, oui, mais quand même, il y a quelque chose en vous. Je dis, qu'est-ce que j'ai ? Elle dit, non, il y a quelque chose. Puis elle se met à pleurer. Et Dieu me parle sur sa vie. En fait, vous savez qui c'était ? Une directrice chez Airbus. Une directrice qui était juste assise à côté de moi dans l'avion et qui allait en Suisse, comme moi, et qui était là. Et juste assis à côté de moi, et c'est là que Dieu voulait lui parler. Alors je lui ai parlé, la femme m'a dit, oh mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est Dieu, c'est des rendez-vous divins, je dis, vous pouvez le dire, peut-être, en tout cas, Dieu vous a parlé, a dit, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors je lui ai donné une adresse d'église à Toulouse, puis j'ai dit, allez les trouver là-bas, ils vont vous aider plus, quoi. Et puis, ouais, je crois que là, même dans des circonstances, dans des endroits, je crois que Dieu veut nous utiliser pour amener les gens. Et la parole prophétique, c'est toujours dit avant que les choses soient dites, vous savez, devant. Et on parle après, c'est par la bouche. On sait à l'avance et on dit par la bouche. Prophétie, c'est ça le terme. C'est pro avant et fini, je dis. Voilà, par la bouche. Donc, c'est important. Et quand on donne la pensée, les gens sont bouleversés. Et la plupart des gens, ça a été ça. Je vous en raconte juste une autre. J'étais dans les rues de Carcassonne. Même là, il se passe des choses. Hein. Pourtant, je vous assure, il y a des ténèbres aussi beaucoup là-bas. Et il y a des gens comme ça aussi, mystiques. Mais j'étais dans la rue avec Jeunesse en Mission qui faisait une évangélisation. Et ils étaient venus avec leur sketch. C'est super, leur sketch. Moi, je trouvais ça formidable ce qu'ils font. Puis après, vous avez les gens autour qui vont parler aux gens qui ont été touchés autour. Et puis moi, je faisais partie, pas du sketch, je ne sais pas trop fait, mais des gens autour. Et puis, j'en rencontre un et je suis toujours, j'aime bien les Arabes. Voilà, je suis allé le voir. Et je lui dis, t'es touché ? Il dit, oui, mais... Allah, je dis oui, d'accord, et puis d'un seul coup, je dis, tu veux que je prie pour toi? Il m'a dit oui. Tout Aram, vous lui demandez si vous voulez prier pour lui, il dit oui, toujours. Pour eux, c'est le contact, c'est important. Donc j'ai prié, je dis, Seigneur, montre-lui que tu es réellement le Fils de Dieu. Parle-lui, envoie-lui un ange chez lui pour lui montrer. Le gars, il fait, puis il s'en va. Puis voilà. J'aurais cru, on aurait pu croire, Hervé, ça tombe à l'eau ton histoire. Non, le lendemain, je vais chercher juste du pain chez le boulanger. D'un seul coup, un gars dans les rues de Carcassonne qui criait, oh, où vous êtes, ah, vous êtes là, monsieur, faut que je vous voie. Cette nuit, un ange est venu dans ma maison. Ce que vous avez dit est la vérité. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dis, tu dois donner ta vie à Jésus. Et il s'est converti. Mais c'est tout simple, c'est vrai. On est trop compliqué. Mais c'est d'être tout simplement à l'écoute et dire les choses avant même qu'elles arrivent. Et c'est par notre bouche. Et nous devons être le canal que Dieu veut utiliser, quoi. Et ça, je vous en raconte encore une. Allez, je vous laisse aller manger. Juste pour la route. J'ai entendu ça. Et juste, voilà. J'étais au Sénégal, et vous savez, il y a 98% au moins de musulmans là-bas, même plus. Hein. C'est vraiment un pays très musulman. Et puis, j'ai ouvert une église aussi là-bas, tu sais, en fait, et ça marche bien, mais ils sont beaucoup. Et puis, en fait, un jour, j'allais enseigner en Casamance, là. C'est un endroit où il y a quand même pas mal de choses qui poussent, il y a des manguiers, il y a tout ça. Et il y en a qui connaissent. Voilà. Bon, et puis j'allais là-bas, et puis j'enseignais, mais alors c'est sous des endroits, sous des tôles, vous savez. Alors quand arrive midi et demi, une heure, je vous assure, ça coule de partout, les chemises, tout. Puis là-bas, il faut être tiré à quatre épingles, alors parce qu'on est ministère, c'est bon. Et puis je transpirais, ma chemise est dénoyée, je dis, on va arrêter, on va faire la pause, on va manger. Et puis on a mangé, puis après on prend le thé. Vous avez déjà pris le thé, c'est super, hein, le thé, il faut en prendre cinq là-bas. Et plus vous en prenez, le premier est amer, le deuxième un peu moins, le troisième, jusqu'au cinquième qui est très sucré, quoi. Et il faut aller jusqu'au bout. Bon, nous, on buvait le thé, les jeunes nous faisaient le thé. Puis d'un seul coup, arrive un homme, comme ça. Alors, voilà, je ne savais pas, c'est un imam. Et puis il arrive, il va d'abord voir le responsable qui nous avait invités. C'est comme ça là-bas, la politesse dans ces pays. « Bonjour, comment tu vas? Tu vas bien? Ta femme, tes enfants ?» Donc, ils lui disent toute la grande série. Et puis, après, il dit « Est-ce que tu as deux hommes de Dieu là ?» Ils disent « Oui, ils sont sous le manguier, là. » C'est super, sous un manguier, au moment de la saison des mangues. Oh, c'est drôlement bon, la mangue. Hein. Et puis, ça fait mal aussi, là, mais c'est bon. Et puis donc, le gars, il arrive vers nous avec son gros Coran. Puis, mon ami qui était avec moi, il avait la Bible. Et il aime discuter. Oh, là, mon ami, il aime discuter. Alors, il s'installe, puis il vient nous voir. Bonjour, comment vous allez? Vous allez bien? Encore de nouveau, toutes les grandes cérémonies. Et puis, tous les samal alaykoum. Et puis, au bout du compte, il s'assoit donc, et il commence. Mon ami dit, il est écrit dans la Bible. Lui dit, il est écrit dans le Coran. Puis je les voyais faire des échanges comme ça. Puis moi, je dis, ça m'a agacé. Je dis, je les laisse. Et je buvais mon thé tranquille, quoi. Mais c'est terrible dans ces pays, si vous ne parlez pas avec la personne qui vient vous visiter, c'est que vous manquez de respect, vous le considérez comme moins que n'importe qui. Donc, il me regarde et il me dit, mais vous, monsieur, vous n'avez rien à me dire. À ce moment-là, l'esprit me saisit et je commence à lui dire, ce matin, dans ta deuxième prière, face à la Mecque, un ange est venu chez toi et t'a dit de venir dans ce village et il y aurait deux hommes de Dieu qui te montreront le chemin, la vérité et la vie. Je lui dis ça. Cet homme qui était le plus grand imam au Sénégal, il passe à la télévision. C'est un homme très connu, bon là il est à la retraite. Un homme très respecté, je vous assure, qui était là, devant nous. Je lui dis ça, il se met à pleurer. Il dit, mais qui vous êtes? Je dis, je suis Hervé. Il me regarde, oui, mais encore, vous êtes prophète, quelque chose comme ça. Je dis, pourquoi vous dites ça? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Alors maintenant, montrez-moi le chemin, la vérité, la vie. Et là, j'ai parlé. Et je lui ai montré le chemin, la vérité, la vie. Cet homme s'est converti. Là, le plus grand imam. C'est fou comme quoi Dieu a été le chercher dans sa deuxième prière le matin face à la Mecque. Pour Dieu, rien qui... Ouh, c'est pas ça qu'il faut regarder. Nous, on est limité par des tas de systèmes. Dieu, il va là où il veut. Et cet homme s'est converti. Tous les dimanches, il était au culte à cet endroit pendant plusieurs années, là. Et puis, il allait à la Mecque pour prêcher à la Mecque. Et vous allez dire, il y en a qui ont dit, mais c'est horrible, il aurait pu quitter. Non! Dieu ne voulait pas qu'il quitte. En fait, il parlait à la Mecque de tout ce qui écrit Jésus sur le Coran. 160 fois le nom Jésus est écrit. Et on parle de Jésus. Lisez la Sourate 4, verset 5. Il est parlé dedans. Il faut lire le Coran, hein, je vous assure. Pas pour vous convertir, mais pour le comprendre. Il est écrit dedans que Dieu a donné l'évangile à Jésus et que Jésus reviendra au dernier jour pour sauver l'humanité. Mais ils ne disent pas que c'est le fils de Dieu. Mais c'est écrit dans le Coran. Ils ne le lisent pas, ceux qui ont le Coran. Ils ne savent pas. Ils lisent juste ce qu'ils ont envie. Mais ces mots-là, et lui, il ne faisait que de prêcher ça. Il y a eu plein de conversions. Puis, un jour, j'étais plus là, il demande à mon ami, chez qui il venait au culte, là, qui nous avait invités, lui, c'était un ancien musulman qui s'est converti au travers de moi. Il s'appelait Abdoulaye Sadio, c'est vraiment un nom. Et puis, cet homme s'est converti, et puis il était là, comme ministère, et il lui dit, je veux que tu viennes chez moi, il va y avoir un rassemblement de 15 000 musulmans, je veux que tu prêches l'évangile. La folie. Mon ami, c'est un évangéliste. Il évangélise les chèvres, les arbres, tout le monde. Tout le monde y passe. C'est un fou, quoi. Et puis, il y va. Quelle odeur, lui, aucune crainte. Alors, je vous assure, ils ont élevé une estrade. Moi, je n'y étais pas, ils m'ont écrit tout ça. Et il prêchait l'évangile. Jésus, fils de Dieu. Nous, on a peur de dire ça. Mais lui qui était musulman, il le dit. Et il dit les choses qui sont la vérité dans la parole de Dieu. Et d'un seul coup, dans la foule, deux hommes se lèvent, ils disent, cet homme dit que Jésus est fils de Dieu, c'est un imposteur, le Coran dit de le tuer. Alors, l'imam se tourne vers eux, vraiment un homme de sagesse, il dit, il est écrit aussi dans le Coran, celui qui manque de respect à un homme qui apporte la parole de Dieu doit mourir immédiatement. Prenez ces deux-là, mettez-les dehors. Et il ne les a pas tués, mais il les a mis dehors. Continue à prêcher l'évangile. Et il a fait à deux reprises en deux années de suite. C'est des rassemblements qui sont une fois par an, comme ça. Et il y a eu plein de conversions. Dans son église, c'est rempli d'anciens musulmans. Comment Dieu peut aller même dans les endroits... Rendez-vous compte, juste ça. Arriver à avoir la parole de Dieu au moment où il faut, quand il le faut. Si je ne l'avais pas dit, c'est une grande question... Dieu serait servi de quelqu'un d'autre. Mais je crois que comme il l'avait dit, il fallait que je lui obéisse. Donc j'ai pu faire ce qu'il fallait au moment où il fallait. Bien sûr, on marche sur des œufs. Hein. C'est la foi, ça. C'est de voir les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Et la prophétie, c'est une mesure de la foi que j'ai dit au début. Ça veut dire que je vais mettre le pied dans le Jourdain et il va s'écarter. Je vais mettre... le pied dans la mer Rouge, elle va s'écarter. Ça veut dire que je peux, si j'obéis et je fais le premier pas, Dieu va faire tout le reste. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, je vous assure. Et la plupart des erreurs qu'il y a au milieu de l'Église, c'est que les gens n'obéissent pas à Dieu. C'est terrible. Parce qu'ils ont peur de se tromper, parce qu'ils ont peur d'être à côté, mais tout ça, c'est de l'orgueil. Ça veut dire que tu crois que tu es un type super. Non, Dieu veut t'apprendre, mais accepter la correction, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire pas la correction brimée, parce que dans le mot correction en France, on est tous des rebelles. Hein. 1789, il est passé par là. Et je crois qu'on a un héritage terrible. Mais on est toujours en révolution. Mais même les chrétiens, on n'est jamais d'accord. Alors finalement, la parole est la vérité. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à pouvoir être soumis à lui, pouvoir accomplir les choses qu'il a prévues pour nous. Donc, je crois que c'est important. Transmettre aux autres la pensée ou la volonté de Dieu qui nous est révélée ou inspirée. Je crois que c'est important. Une inspiration, c'est quelque chose qui vient en nous. Ça peut être une image, on en reparlera tout à l'heure. Ça peut être une parole de la Bible, ça peut être une parole précise pour les gens. Chaque fois, il y a quelque chose qui doit se mettre en action. Et c'est sous forme tellement différente. Mais ça, on va l'apprendre cet après-midi. Je vais vous enseigner comment on reçoit. On se mettra par équipe. Alors, si on a autant de personnes, d'équipe de 10 personnes, puis on essaiera avec une personne dedans qui a plus l'habitude de prophétiser. Puis on va essayer d'apprendre. Et vous verrez que tous peuvent prophétiser. D'accord ? Par petits groupes, c'est plus facile. Comme ça, si on se trompe, ça ne se sait pas partout, quoi. Mais c'est bien, on apprend comme ça au début. Hein. Donc on verra tout à l'heure. Je vous enseignerai ça. Je vous laisse, je crois qu'il faut que j'arrête. C'est bon.
Mais c'est pas grave, hein. Ne prends pas un air piteux, c'est pas le problème. J'assure ma responsabilité et on va manger. Donc pour ceux qui avaient préparé un petit sandwich, on peut manger ici. On se retrouve pour les autres à 14h. Voilà, on va à céder table et on va tous manger ensemble si vous avez amené.